Casanova, Lucie et les deux nièces d'un gentilhomme vénitien. Pendant mon séjour à Amsterdam, j'allais un jour faire visite à Harry Gerbos pour le remercier d'une démarche qu'il avait faite en ma faveur. « Oh, je suis à la veille, me dit-il, de m'embarquer pour Batavia, à bord d'un navire que j'ai chargé des débris de ma fortune. Dans l'état où se trouvent mes affaires, j'ai jugé que ce parti était le plus sage. Oh, je pourrais t'assurer la cargaison, afin de ne pas diminuer mes bénéfices, qui doivent être considérables si je réussis. Si je suis pris ou si je fais naufrage, je compte bien ne pas survivre à la perte du bâtiment. » Dans tous les cas, je ne perdrai rien. Le pauvre Rigerbos me disait tout cela en riant, mais le désespoir était sans doute pour beaucoup dans sa résolution. Car on ne perd pas la fortune et la vie sans regret quand on n'a pas de grand motif de mépriser l'une ni l'autre. Ma chère Thérèse Trenti, que Rigerbos appelait toujours Notre-Dame, n'avait pas mal contribué à sa ruine. Elle était alors à Londres où, à ce qu'elle nous écrivait, elle faisait des bonnes affaires. Elle avait quitté le nom de Trenti pour celui de Cornelis, qui était le véritable nom de Rigerbos, comme je l'ai su depuis. Nous passâmes une heure à écrire à cette femme singulière, voulant profiter de l'occasion d'un individu qui partait pour l'Angleterre et que Rigerbos lui recommandait. Quand nous eûmes achevé, nous allâmes faire une course en traîneau sur l'Amstel, qui était pris depuis quelques jours. Ce divertissement que les Hollandais chérissaient et que l'on se procure pour un ducat à l'heure est, à mon goût, le plus ennuyeux du monde, à moins qu'il ne s'agisse d'un voyage que l'on fait avec rapidité. Mais un voyage n'est pas un plaisir sans le but que l'on se propose d'atteindre. Après nous être gelé le visage, nous allâmes manger les huîtres avec du céleri pour nous réchauffer, et de là nous courûmes les Boussicos, sans aucune idée de débauche et par simple désœuvrement. Mais il paraissait écrit que toutes les fois que je préférerais quelques diversions de ce genre à l'agréable société d'Esther, il m'arriverait quelque malheur. Je ne sais à propos de quoi, Rigerbos, en entrant dans un musico, m'appela par mon nom d'une voix assez haute. Mais à l'instant même, une de ces femmes que l'on trouve toujours en pareil lieu vint se placer devant moi et me regardait fixement. Quoique la chambre fût assez mal éclairée, je reconnus la malheureuse Lucie, qu'un an auparavant j'avais rencontrée en pareil lieu sans en être reconnu. Je me retournai, faisant semblant de ne pas la connaître, car sa vue m'était importune. Elle m'appela d'une voix triste, se rappela ma mémoire et me félicita de me trouver dans un état florissant. Autant, me dit-elle, que je devrais m'attrister de la voir telle qu'elle était forcée de se montrer à mes yeux. Voyant que je ne pouvais ni l'éviter ni la repousser sans cruauté, j'appelai Rigerbos en le priant de monter avec moi dans une chambre où cette fille nous amuserait du récit de son histoire. Lucie, à proprement parler, n'était point devenue laide. Elle était affreuse parce que, sous des traits flétris, des restes laissaient deviner qu'elle avait été belle. Elle était dégoûtante. Depuis que je l'avais connue à Passéane, 19 années passées dans la misère, la débauche et l'humiliation, on avait fait l'être le plus abject, le plus avili qu'il soit possible de se figurer. Elle nous conta longuement son histoire, que, sans être grand analyste, on pouvait renfermer en 6 lignes. Le coureur L'Aigle l'avait menée à Trieste pour y faire ses couches. Ensuite, ce mauvais sujet a vécu du trafic de ses charmes pendant 5 ou 6 mois, puis un capitaine de navire, qui en faisait ses délices, l'amena à Xanthès avec L'Aigle, qui passait pour son mari. Axanthès, coureur, se fit soldat et déserta 4 ans après. Demeurée seule, elle continua pendant 6 ans à vivre de sa personne. Mais sa marchandise baissant de prix et ne trouvant plus que des chalands subalternes, elle partit pour l'Angleterre avec une jeune grecque qu'un officier de marine anglaise traitait comme sa femme et qu'il abandonna dans les rues de Londres quand il en fut rassasié. Après 2 ou 3 ans de séjour dans les cloaques britanniques, Lucie vint en Hollande où, ne pouvant plus trafiquer d'elle-même, elle se fit pourvoyeuse. Résultat nécessaire de la carrière où le sort avait précipité. Lucie n'avait que 33 ans, mais elle était décrépite et les femmes ont toujours l'âge qu'elles montrent. Pendant qu'elle causait, dans le ton qui convenait à un pareil récit, elle vida 2 bouteilles de Bourgogne que j'avais fait venir et auxquelles nous ne touchâmes point, mon ami et moi. En achevant, elle nous dit qu'elle vivait en ce moment du produit de 2 jolies personnes qu'elle tenait chez elle et qui devaient lui donner la moitié de tout ce qu'elle recevait. Puis Gerbos lui demanda en plaisantant si ses belles filles étaient aux musicaux. Non, lui répondit-elle, elles n'y sont pas et n'y viendront jamais, car elles sont nobles. Et leur oncle, sous l'inspection de qui elles sont, est un gentilhomme vénitien. Ah, c'est beau, je ne pus retenir un éclat de rire. Mais Lucie, sans se déconcerter, me dit qu'elle ne pouvait me répéter ce qu'elle lui avait dit, et ajouta que si nous voulions nous en convaincre, nous les trouverions à 50 pas dans une maison qu'elle louait pour elle, et que nous pourrions les voir en sûreté, parce que leur oncle logeait dans un autre quartier de la ville. Comment, lui dis-je, il ne demeure pas avec ses nobles nièces? Non, il ne vient que pour dîner, et alors il s'informe de leur bonne fortune et leur prend tout ce qu'elles ont gagné. Allons, dirigeur Boss, allons les voir. Comme j'avais grande envie de boire et de parler à de nobles vénitiennes en si belle profession, je dis à Lucie de nous conduire chez elle. Je savais fort bien que ces prétendues filles de condition ne pouvaient être que des friponnes et leur gentilhomme d'oncle qu'un gredin, mais le sort en était jeté. Nous trouverons 2 jeunes filles assez jolies. Lucie m'annonce comme vénitien, et les voilà hors d'elles-mêmes et toutes enchantées de voir quelqu'un à qui pouvoir parler. Je m'aperçus tout de suite qu'au lieu d'être vénitiennes, elles étaient du Padouan, dont elles me débitaient le jargon qui était bien connu. Je le leur dis et elles en convinrent. Je leur demandai le nom de leur oncle. Mais comme je m'y attendais, elles me dirent que des raisons majeures les forçaient au silence. Oh, nous pouvons passer de le connaître, dirigea Boss en s'emparant cavalièrement de celle qui lui convenait le mieux. Lucie faisait venir du jambon, des huîtres, un pâté et force bouteilles, puis elle se retira dans sa chambre. Je n'avais aucune envie de faire des folies, mais Rigerbos était en humeur de rire. Sa belle, faisant la prude, il la plaisante, je l'imite et, selon l'usage, ces créatures s'humanisant, nous allons de l'une à l'autre. Et bientôt, elles se trouvèrent dans l'état où Dieu avait mis Ève avant que notre curieuse d'aïeule eût besoin d'une feuille de figuier. Après avoir passé 1 heure dans ces lubriques ébats, nous payâmes chacune des filles, ayant 4 ducats, outre la dépense, et après avoir remis à l'écart 6 louis à Lucie, nous partîmes, moi de fort mauvaise humeur d'avoir cédé à la brutalité, et j'allais me coucher. 2 ou 3 jours plus tard, étant chez moi, le matin d'assez bonne heure, on m'annonça un homme se disant officier, mais dont le nom m'était parfaitement inconnu. Je lui fis dire que je n'étais pas visible, et mon espagnol étant sorti, je fermai ma porte à la clef. Tout ce qui m'était arrivé naguère m'avait rendu soupçonneux, et je ne voulais plus voir personne quand j'étais seul. Mes 2 voleurs avaient déjoué toutes les démarches de la police, et Piccolomini avait disparu. Mais je savais qu'il restait encore à Amsterdam bon nombre de mauvais sujets de leur clique, et je croyais les précautions nécessaires. Quelque temps après, le duc rentra et me remit une lettre écrite en mauvais italien et me dit qu'elle lui avait été remise par un officier qui en attendait la réponse. Je l'ouvre et je reconnais le nom que l'on m'avait annoncé un peu auparavant. Il me disait que nous nous connaissions, mais qu'il ne pouvait me dire son nom, que de vive voix, et qu'il ne venait que pour me donner un avis important. Je dis à le duc de le faire entrer et de se tenir auprès de la porte. Je vois un homme d'une quarantaine d'années, d'une assez belle stature, vêtu d'un uniforme d'officier de je ne sais quelle armée, et portant sur les traits tous les signes d'un échappé de la potence. « Que me voulez-vous, monsieur ?» lui dis-je dès qu'il fut dans la chambre. « Ah, monsieur, nous sommes connus à Cerigo il y a 16 ou 17 ans, et je suis bien aise de trouver l'occasion de renouveler connaissance. Je me ressouvins alors que j'avais été à Cerigo que quelques instants lorsque j'accompagnais le bel à Constantinople, et je jugeais que ce devait être l'un des deux malheureux auxquels j'avais fait l'aumône. Est-ce vous, lui, demandai-je, qui m'avez dit être le fils d'un comte Peccini de Padoue, quoiqu'il n'y ait dans le Padoua aucun comte de ce nom? J'admire votre excellente mémoire, me dit-il avec assurance, c'est bien moi. Et que pouvez-vous me vouloir ici? Oh, je ne puis pas vous le dire en présence de votre domestique. Oh, mon domestique ne parle pas italien. Vous pouvez parler, au reste, je vais le faire sortir. Je dis à le duc de se tenir dans l'antichambre, et quand il fut sorti, le soi-disant comte Padoan me dit que j'avais été chez ses nièces, que je les avais traitées en courtisanes et que partant, il venait me demander satisfaction. Là, de tracasserie, je cours saisir mes pistolets et en lui en présentant le bout, je lui ordonne de sortir à l'instant. Le duc entre et le troisième voleur s'esquive en me disant qu'il saurait bien me trouver quelque part. La partie était honteuse. J'aurais dû conter l'affaire tout entière au président de la police si j'avais voulu en avoir justice. Je crus de mon honneur de garder le silence, et je ne parlais de cette incartade qu'à Rigerbos, me rapportant à lui. En effet, n'ayant pas comme moi des mesures à garder, il fit des démarches, et Lucie reçut injonction de renvoyer les prétendues nièces de condition. Mais cette pauvre diablesse vint tout en pleurs me dire que ce malheur la replongeait dans la plus affreuse misère. Je lui fis présent de quelques ducats et partis consoler. Je la priai de ne plus reparaître chez moi.